n'était pas tout à fait prêt, vous allez me redire tout ça.
Non, non, ça tourne, ça tourne.
Déjà ?
Non, mais quelqu'un part, j'enregistre. C'est pas intéressant, je coupe. Intéressant, coupé. Intéressant, coupé. Clic, clac, clic, clac, pouf.
Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont si vite ?
Ben là-bas, Saint-Jacques.
En pèlerinage ?
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start.
Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lundi, gueule de bois. Mardi, rentrée. Vendredi, ravioli, bien sûr. Et mercredi, c'est cinéma. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, l'émission consacrée au 7e art sur Radio G. Ce soir, dans le studio, une équipe motivée, bien réveillée et studieusement installée derrière les micros et la console. Bonsoir Lisa.
Bonsoir.
Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Bonsoir Sandra.
Bonsoir. Pace salute a tutti.
Et bonsoir Margot.
Bonsoir. Alors nous y sommes, 2023 est là et il est grand temps en ce 4 janvier de vous souhaiter bien sûr une bonne année.
Bonne année.
Une année impertinente, me glisse-t-on dans mon casque. Une année apaisante, me sursure-t-on à l'oreille. Une année de découverte et de première fois flamboyante, me crie-t-on en chœur autour de moi. Si, si, les filles crient autour de moi.
Flamboyante.
Et les premières fois dans l'histoire du cinéma, eh bien, c'est justement la thématique du nouveau quiz dont nous régalera Sandra tout au long de l'émission.
J'ai essayé.
Il y aura aussi, en fin d'émission, une évocation des bandes originales iconiques et envoûtantes composées par le regretté Angelo Badalamenti. Et dans quelques minutes, une rencontre pétillante avec Ingrid Franchi, la réalisatrice de la web-série Prisoner. Eh bien, on commence avec toi, Sandra. Quelles questions as-tu donc dans ta besace ?
Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu d'histoire du cinéma. Et donc, c'est un quiz en forme de chronique ou une chronique en forme de quiz, comme vous voulez. Donc, ma première question, on va voir si vous êtes dedans. Ma première question, quel est le premier film de l'histoire du cinéma projeté en public ?
C'est un film avec les frères Lumière, le train.
Non, c'est pas le train.
Non, non, c'est pas le train, c'est la sortie d'usine. Sortie d'usine.
Ah, ouais. Oh,
oh là là, les cours de cinéma.
La sortie de l'usine Lumière à Lyon, oui, des frères Louis et Auguste Lumière, en quelle année ?
1895.
La projection, pas mal, c'est le 28 décembre 1895, oui, si je ne m'abuse.
Alors, le 28 décembre, c'est la première projection
publique
devant des notables, mais il y en avait eu une avant le 22 mars, devant un parterre restreint de savants, pour faire découvrir cette nouvelle invention qui était le cinématographe, qui était, tout le monde ne le sait pas, un appareil 2 en 1 qui permettait à la fois d'enregistrer les images, mais aussi de les projeter sur un grand écran. Et donc d'avoir une projection publique, puisque les frères Lumière n'ont quand même pas tout inventé. Évidemment, la voie avait notamment été ouverte par l'Américain Thomas Edison et le Britannique William Dixon, qui, entre 1891 et 1893, donc vous voyez, c'est un tout petit peu avant, tournait déjà des films à l'aide d'un appareil qu'on appelait le kinétographe. Et on pouvait ensuite voir ces films en mouvement grâce au kinétoscope, mais qui est un appareil qui ne pouvait être visionné que de façon individuelle. On mettait une petite pièce et puis on pouvait voir les images en mouvement, mais en solo, quoi.
Donc si je comprends bien, l'appareil des frères Lumière, c'était un peu shampoing et démêlant tout inclus, quoi. 2 en 1.
Exactement, invention de dingue. Donc pas mal, vous êtes dans le bain. Donc du coup, je vous propose une deuxième question sonore. Dans quelle chanson entend-on cette... dans quel film entend-on cette chanson, et non pas l'inverse.
Wait a minute, wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right, hold on, hold on.
Lou, listen. Play Toot Toot Tootsie. 3 choruses, you understand? And the 3rd chorus, I whistle. Now give it them hard and heavy. Go right ahead.
Toot Toot Tootsie. Goodbye. Toot
Dixie, don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me. Kiss me, pretty, and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail, I'll never fail. If you don't get a letter, then you know I'm in jail. Hey, hey, don't cry, Dixie, don't cry. Kiss me, Dixie, goodbye.
Bon, alors faudrait quand même, on n'a pas l'image, mais c'est... il faut imaginer que Sandra mime la scène.
Est-ce que c'est un film d'animation ?
Pas du tout.
Ah. Moi j'ai envie de dire le chanteur de jazz, mais est-ce que c'est
très
ça ?
Bien. Allez,
trop fort.
Oh là là. Bah, écoute, on est dans la chronique première fois, donc je me dis, c'est le premier film parlant, c'est ça ?
Exactement, il est considéré comme le premier film sonore. Alors sonore. Vous constaterez qu'il y a quelques scènes parlées, mais c'est surtout très musical, parce qu'en fait le film est principalement muet. Il y a quelques scènes où on entend des chansons comme celle-ci. Alors, c'est un film de 1927 d'Alan Crosland, avec un blanc grimé en noir. Et oui, hein, c'est l'époque. Et donc, il est considéré comme le premier film parlant. C'est le premier long métrage à expérimenter ce qu'on appelle le Vitaphone, qui est un procédé Warner, qui permet la synchronisation du son et de l'image. Et donc, comme je disais, les premiers films sonores étaient surtout musicaux. Et parmi ceux-ci, on peut citer notamment le court-métrage d'animation Steamboat Willie. Je ne sais pas si ça vous parle.
Ah bah oui, ça c'est Mickey, non ?
Exactement, c'est la naissance officielle du personnage de Mickey en 1928. Donc, on constate que Walt Disney était vraiment toujours à la pointe des évolutions techniques.
Bon, j'étais pas loin avec mon film d'animation.
Hein. Oui, oui. Absolument.
Alors, c'était pas le bon son, mais...
t'étais pas très loin. Et donc, Steamboat Willie de Walt Disney est le premier dessin animé à avoir bénéficié d'une bande sonore synchronisée dès sa sortie. Je vous propose d'écouter un petit extrait, les premiers sons de Mickey.
Oui, père.
Donc, voilà, le premier son de Mickey, ben, c'est « Il sifflote », en fait, tout simplement. Donc évidemment, l'innovation sonore évolue très rapidement et condamne assez vite le cinéma muet. Du coup, certains acteurs qui fonctionnaient beaucoup sur la gestuelle n'ont pas l'aisance de parole devant la caméra et leur carrière s'en trouve terminée. Est-ce que vous avez...
Moi, j'imagine totalement le film dont on va parler ensuite, oui.
Ah bah, ou pas. Mais en l'occurrence, voilà, des acteurs comme Buster Keaton, l'arrivée du parlant, pour eux, c'est un petit peu la fin. Je vous parlerai peut-être dans une future chronique des grands noms du burlesque.
Ouais. Bon, bah écoute, merci en tout cas Sandra pour cette première salve de questions où on sent qu'on va parler innovation technique. Cécile, maintenant tu nous proposes une interview de la réalisatrice Ingrid Franqui pour parler de sa web-série Prisoner qui a été tournée à Angers pour certains épisodes avec des comédiens de la région. Et du coup, tu as toi-même tourné dans un épisode qui recrée une sitcom des années 80.
Oui, tout à fait Margot, j'avais le rôle de Céline, la mère d'Alissa, une jeune fille qui joue dans la sitcom. Et je vous propose d'écouter d'abord un extrait de la bande-annonce de Prisoner, puis viendra donc l'entretien avec la réalisatrice Ingrid Franqui.
We all come from the same world, the same universe. We are all interconnected.
J'ai vécu quelque chose d'assez compliqué.
Paul Stettini Smakovao.
T'en faut assumer ses origines, Mademoiselle Douda, enfin.
M'appelle pas comme ça, Stéphane.
Lâche-le. Non, son peuple n'a jamais eu toute ton enfance des avocats, des juges, des avocats, des juges.
C'est notre destin, tu vas devenir une grande star, ma fille, je le dis. Et je ne peux plus que tu vois, Hélène. Cette fille t'influence dans une direction qui n'est pas la tienne. Soit tu fais ce que je te dis, soit j'arrête de m'occuper de toi et je pars.
Personne ne se mettra en travers mon chemin. Personne.
Breathe, okay? Breathe.
Bonjour Ingrid.
Bonjour.
On se retrouve aujourd'hui dans un café à Angers pour parler de ta série Prisonneur que tu as réalisé. Alors on dit série ou web-série ?
Alors, bon, on peut dire les deux, mais en vrai, pour être le plus juste possible, c'est plutôt web-série, parce que ça a été créé pour être diffusé sur une plateforme Internet.
Donc j'ai eu la chance de voir 7 épisodes qui ont été projetés à la salle Le 4 à l'Université d'Angers mi-octobre. Ces épisodes ont été tournés à Angers l'été 2019 pendant 3 semaines. À un premier moment dans un décor de reconstitution d'une sitcom des années 90 et un autre moment de tournage pour la reconstitution d'un hôpital. Mais tu n'as pas tourné qu'à Angers pour cette série.
Alors juste pour préciser, donc effectivement on a tourné 3 semaines pour la reconstitution, tout ce qui est la partie flashback en fait de la série. On a tourné effectivement un jour pour recréer un hôpital qui est censé se passer à Toronto. Mais après on n'a pas fait que ça, c'est vrai qu'on a à Angers en tout cas, on a tourné quelques jours en plus. Le tournage en fait global de la série a duré 4 ans. Donc on a d'abord on a fait Lyon, on a fait Marseille, on a fait Paris, on a fait Angers, Castambert. Ça, c'est pour la partie française. Et après, on a tourné en Pologne. Il y a des images qui ont été tournées en Algérie et au Canada. Voilà, ça, c'est pour situer l'action, quoi, oui. On va dire. Et après, Angers, c'est vrai qu'on a tourné quelques fois, mais c'était vrai. Ce que tu as dit, c'est vraiment les deux grosses parties du projet, quoi, à Angers.
D'accord. Et, alors, je rebondis sur les différents lieux géographiques. Pourquoi ces différents lieux ? Est-ce que c'est lié aux personnages de l'histoire ?
On a 5 personnages principaux dans la série qui ont 5 origines différentes. Donc j'ai pas pu tourner dans 5 pays malheureusement, mais j'avais envie de donner une dimension autre que française en fait pour cette thématique du traumatisme. Et du coup, je suis allée en Pologne parce qu'un des personnages était franco-polonais. Donc du coup, j'ai voulu pour le coup là, parce que c'était possible aussi, d'aller tourner en Pologne. Pareil pour l'Algérie. Donc là, il faudrait aller en Roumanie. Enfin, il y a d'autres pays qu'on n'a pas pu faire pour des questions financières, hein, tout simplement. Mais l'idée, au départ, c'était vraiment que chaque personnage ait des origines particulières pour justement agrandir un peu le point de vue sur le traumatisme, quoi.
Donc, Prisonneur, c'est... le sujet, c'est le traumatisme.
Oui, c'est la thématique principale, c'est le trauma et comment on essaye de se libérer de ça au fur et à mesure de sa vie d'adulte, quoi.
D'accord. Donc, 5 personnages principaux, tu viens de nous le dire. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun ? Oui ? Donc le trauma.
Oui, bien sûr, il y a le trauma, il y a la thématique qui les lie, mais pas que. Parce qu'on s'en rend compte au fur et à mesure de la série, quand on avance dans le scénario, on va dire, ils sont tous liés par quelque chose en fait. Alors, soit c'est le père, soit c'est la fille, soit c'est le copain, soit c'est. Alors, il y a toujours un lien en fait qui les unit. Et ça, on le découvre au fur et à mesure.
D'accord. Dans le générique des épisodes, on peut lire que tu as une approche particulière pour la direction d'acteur. Tu l'as évoqué à demi-mot là dans ta proposition avec Xavier, dans ta proposition de travail. Donc, peux-tu nous expliquer un peu comment tu travailles avec tes comédiens ?
Effectivement, je travaille beaucoup en improvisation. Maintenant, ça veut tout dire et rien dire, l'improvisation. Ça fait un peu bizarre parce que des fois, les gens pensent que c'est de l'improvisation, même sur le tournage, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, tout ça. Donc, c'est pas du tout ça. Donc, c'est très encadré et cadré. Donc, en gros, le scénario est écrit, voire des fois même les dialogues. Mais, et alors, ils le lisent, les comédiens. Mais par contre, je leur dis bien de ne pas l'apprendre, ce qui est très bizarre. Mais de partir sur ce qu'ils ont lu pour avoir une idée un peu de là où je veux aller et les points clés, on va dire. Et après, on improvise. Alors ça, c'est vrai pour, on va dire, 80% des scènes. Après, il y a des scènes qui ont été vraiment écrites et pour le coup, il fallait vraiment les jouer comme ça. Notamment, je pense à tout ce qui est parti flashback, sitcom, où c'est très, très particulier. Donc du coup, il fallait vraiment que les comédiens jouent au mot près quasiment, parce que ça reste un style un peu le sitcom particulier, quoi. Et après il y a des parties qui étaient dans des langues étrangères comme l'anglais où certains comédiens n'étaient pas trop à l'aise, donc du coup ils ont vraiment appris les textes pour pouvoir même un peu improviser après, mais voilà, c'était pour leur donner une bonne base, on va dire.
D'accord.
Mais sinon, oui, l'improvisation, en gros, ce que je faisais, c'est que... En début de journée, par exemple, on allait tourner sur un décor. Je prenais les comédiens, sans forcément avoir les techniciens avec moi. Donc je commençais les répétitions. Et après, au fur et à mesure des répétitions qui se construisent, il y a notamment le chef-op et le chef-opérateur et l'ingénieur du son qui assistaient à ça pour pouvoir placer les caméras et se placer au niveau du son. Parce que je faisais vraiment... je mettais bien en avant le travail des comédiens et après on mettait la technique autour et pas l'inverse.
Ça implique une technique particulière au moment de tourner en fait. Hein.
Bah c'est ça, c'est qu'en fait là pour le coup il n'y a pas de marque au sol, il y a une liberté un peu plus grande pour les comédiens. Ce qui est peut-être un peu moins. C'est un peu plus compliqué pour les techniciens parce qu'il faut suivre et que. Comme on a répété, et généralement les comédiens, une fois qu'ils ont répété, ils répètent quand même un peu la même chose, mais on se laisse aussi l'espace à encore une improvisation quand on tourne en fait. Donc moi je trouve ça hyper intéressant, mais ça peut être frustrant pour des techniciens qui sont très à cheval sur des marques ou sur un cadre très précis et tout. Et là pour le coup on n'est pas là-dedans en fait.
D'accord. Et au montage, ça implique
Ça implique beaucoup de problèmes,
ouais.
comme on peut le supposer, de raccords.
Ouais.
Mais bon, là, on tourne avec deux caméras. Donc les champs contre champs, on sait qu'on a forcément des bons raccords à ce moment-là. Maintenant, si on veut mêler plusieurs prises, forcément, il faut faire attention à ça. Et il faut savoir que monter de l'improvisation, ça n'a rien à voir avec monter un film qui est très très précis dans ses dialogues, on va dire. Mais ça se fait, il y a d'autres réalisateurs qui font ça et ils ont un monteur qui sait faire en fait, tout simplement. Quoi. Ouais. C'est juste une façon différente de faire les choses.
De travailler, ok. Toujours au niveau du générique et même dans les épisodes, on entend, enfin la musique a une place importante. Mm. Et tu as, enfin j'ai cru comprendre, tu vas me dire si c'est ça, que tu as travaillé en fait sur une base où finalement les paroles sont toujours les mêmes et en fait selon les épisodes, selon surtout les personnages finalement l'univers musical est différent et se rapproche du personnage.
En fait il y a eu deux bases de travail, on va dire. Il y a toute la partie mise en musique des épisodes en soi. Donc là, ben, c'est un compositeur à l'image qui a fait vraiment à l'image et en fonction des personnages. Donc il y en a cinq, avec cinq univers musical. Et il y a les génériques de fin. Qui là, en fait, comme tu dis, effectivement, c'est le même texte pour tout le monde, qui a été écrit en anglais. Et après, chacun l'adapte en fonction du style de musique qu'il fait. Donc ça peut être du rap, du rock, du hip-hop. Vraiment de tout. Et chacun propose ce qu'il veut et j'ai aucun... j'ai pas de droit de regard là-dessus, on va dire. Si ce n'est qu'il faut une qualité qui soit diffusable, bien sûr, mais en soi, les gens qui proposent quelque chose ont pu, je pense, faire le style vraiment qu'ils avaient envie. Et ça a été après traduit dans toutes les langues qui sont parlées dans la série. Donc il y a l'algérien, l'arabe, il y a l'arménien, le polonais, français, anglais.
D'accord. Alors tu dis chacun... propose une musique, c'est-à-dire tu as ouvert la possibilité à différents musiciens de composer les génériques.
Ouais, au départ l'idée c'était d'ouvrir un appel, on va dire, à tous les gens qui ont participé à Prisoner, qui sont très nombreux, hein, puisque on peut compter presque 800 personnes en tout. Et je me suis dit, dans ces 800 personnes, il y a forcément des musiciens. Et le challenge, c'était de trouver des gens qui ont participé à Prisoner et qui font, ceux qui veulent en tout cas, une musique pour un des génériques. Et il y en a même qui en ont fait plusieurs. Je pense à Phil de Weil qui en a fait 5. Bon, on ne les a pas encore utilisés les 5, parce qu'on voulait quand même que chacun ait sa place. Pourquoi s'il y en a d'autres Mais en tout cas, lui, il en a fait 5. Il était hyper inspiré. Et en plus, c'est des styles hyper, hyper différents à chaque fois. Ouais. Donc il y en a qui ont bossé avec des musiciens, il y en a qui ont bossé tout seul devant leur ordinateur. Voilà. Et il y en a qui ont bossé ensemble, c'est-à-dire qui sont allés chercher... par exemple, j'ai une comédienne, Saté, qui a des rôles, c'est la maman elle joue la maman de Nina, qui est arménienne. Du coup, elle chante dedans, donc elle a pris une amie qui est guitariste pour faire la mélodie. Donc ça, c'est une partie du travail. Et puis, tu as aussi des gens qui pouvaient que chanter, entre guillemets, et qui n'avaient pas la possibilité de faire la musique. Donc Jean-Louis, le Cortès, notre compositeur, il s'est proposé du coup de faire la musique. Et eux, ils ont chanté par-dessus, quoi. Voilà.
Combien de festivals?
Alors, je ne sais plus à combien j'en ai envoyé, mais là, pour l'instant, on en est à 49 sélections.
49 sélections, ouais. Et combien de prix?
39.
39, ça, c'est impressionnant. Bravo. Quelle vie, maintenant, pour Prisoner?
Alors, il y a plusieurs choses, en fait, qui sont prévues. C'est-à-dire que déjà, il faut finir les montages, ce qui ne sont pas terminés. Parce qu'on a quand même 31 épisodes d'environ 15 minutes, avec 3 épisodes qui font plus d'une demi-heure. Donc tu vois, t'as le 14, le 16 et le dernier, ça va être des épisodes qui sont à rallonge un peu.
D'accord.
Donc c'est énormément de travail parce que t'as le montage, t'as le mixage, l'étalonnage, t'as la musique du coup, et tout ce qui est générique. Et tout ça, ça prend un temps de fou qu'avec des gens bénévoles aussi, quoi. Mmh. Donc moi là, j'en suis au montage au 25e. Donc je vois le bout. Donc ça, c'est la première partie. Une fois qu'on aura fini ça, je vais monter une boîte de prod. Enfin, c'est en cours, c'est en même temps. Hein,
En parallèle,
ouais. En parallèle, voilà. Pour justement aller démarcher ensuite les diffuseurs. Parce qu'en fait, je suis allée voir des...
T'as déjà fait des rencontres?
J'ai déjà fait des rencontres, que ce soit distributeur, diffuseur ou producteur même.
Merci, Ingrid Franqui.
Merci, Cécile Botson.
Donc, nous souhaitons un bel avenir à Prisoner.
Merci.
De trouver un diffuseur. Voilà. À très bientôt.
Merci.
Merci Cécile. Alors on crée l'attente et la frustration car on ne peut pas encore découvrir la série Prisoner, mais vous pouvez trouver des infos sur le site serieprisoner.com. Et on enchaîne avec la musique du générique de fin de l'épisode 17 composé par Jean-Louis Cortès, compositeur des musiques de Prisoner. Et à la voix, c'est Ingrid elle-même qui chante.
I found my way. This must be right. This found this light, my path is shown. I feel alive, no longer a prisoner, no longer a prisoner of this life. From my chains, I'm at ease now. The jackal have all fallen. I can breathe now. The veil has been raised, the weight has been lifted. Seeing these choices around me, the present has been gifted. I found my way. This must be right. This feel like home. I found this light. My path is shown. I feel alive. No longer a prisoner. No longer a prisoner of this life. I have shown my strength in every battle. Discovered doors so I can travel. To free my mind went through and then back for better days. My only option to make a way. But I'm alive. It took some time. It took some time. I can finally tell my story. I can really speak my truth. I always stay connected, remain grounded in my roots. I found my way. This must be right. This feel like home. I found this light. My past is shown. I feel alive. No longer a prisoner.
quotidien, à l'écoute de l'émission Caméra Subjective sur Radio G 101.1.5. Non, je me suis embrouillée, 101.5 FM. Et tout de suite, on poursuit avec la suite du quiz de Sandra.
All right. Alors, troisième question. Que doit-on au français Georges Méliès ?
Les trucages. Bien Pardon. Joué.
Alors, en termes de première fois de l'histoire du cinéma, effectivement, Georges Méliès est considéré comme un peu l'inventeur des premiers effets spéciaux. Il était ancien magicien et il avait envie de continuer à faire de la magie grâce à l'art du cinéma. Et il faisait des trucs complètement dingues. Il surexposait la pellicule plusieurs fois. Il faisait apparaître, disparaître des personnages. Il coupait la pellicule. Il peignait même à la main chaque photogramme pour mettre de la couleur sur le noir et blanc pour impressionner davantage les spectateurs. On lui doit notamment le film Le Voyage dans la Lune, qui est un peu son plus connu, et je vous invite vraiment à le découvrir, c'est assez fascinant.
Il y a même une version de ce film avec la musique de R, donc c'est-à-dire une musique totalement contemporaine, assez hypnotique, qui fonctionne vraiment bien avec le film.
Absolument, et vraiment, il faut le découvrir. Alors c'est fou parce que Georges Méliès, il est assez méconnu, mais il a pourtant fait plus de 500 films qu'il nommait des féeries ou des fantasmagories. Vous avez peut-être entendu parler de lui dans Hugo Cabret ou dans Jack et la mécanique du cœur qui lui font des clins d'œil. Et si ça vous intéresse de découvrir son histoire, je vous invite à voir le documentaire qui passe sur Arte TV qui s'appelle Le mystère Méliès de Serge Bromberg et Eric Lange. Et il est visible jusqu'au 21 février. Quatrième question. Dans quel film entend-on cette chanson ?
Eh ho !
C'est des séries.
Eh ho !
Vraiment ?
Attendez la fin.
J'ai révisé, j'ai revu hier.
Alors, pourquoi je vous ai mis cette musique et qu'est-ce que c'est ?
Bah pour nous faire danser, on était tout en rond avec
Blanche-Neige.
Et oui, Blanche-Neige et les Sept Nains. Et
Ah oui, si, je voilà. sais. Je
pourquoi
sais.
C'est
le premier dessin animé en couleur, non ? Ou c'est pas le premier long-métrage en couleur ?
Ah bah, non, alors, t'as en partie.
Si, c'est Blanche-Neige, le premier long métrage en couleur, non ?
Bah oui, c'est ça.
Faut pas que je fasse de la technique en même temps.
Alors, effectivement, Blanche-Neige en 1937 est le premier long métrage d'animation des studios Disney, et il est notamment important parce que il a des innovations techniques et artistiques assez dingues pour l'époque, et c'est le premier long métrage d'animation au monde à la fois sonore et en couleur.
Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà eu des longs métrages. Enfin, il y avait déjà de l'animation en couleur, en fait.
Alors, oui, et en fait, souvent, on considère que c'est le premier long métrage d'animation, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Blanche-Neige, c'est 1937. Et le premier long métrage d'animation, c'était un film c'est muet argentin de 1917 qui s'appelle El Apostol. Et on en parle au passé parce qu'il a été perdu suite à un incendie en 1926. Donc, enfin, voilà, encore une démonstration.
Et après,
démonstration.
T'as l'auteur Redinger aussi qui a fait ouais. Les aventures du prince Ahmed, qui est en couleur,
magnifique.
Mais muet.
Absolument. Mais Disney, il est quand même à la pointe des innovations. Il utilise notamment le Technicolor, la caméra multiplane pour donner de la profondeur à l'image, dont on a plusieurs superpositions, et puis notamment le rotoscope, entre autres. Alors, cinquième question, à quel film appartient ce dialogue ?
Ouh là là.
Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue.
Coucou ! Quoi, je t'ai fait peur ? Mais je l'ai pas fait exprès.
Non,
pardon, salut cowboy. Moi, c'est Woody.
Allez, vas-y.
Et ça, c'est la chambre d'Andy.
Absolument.
Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous...
Non, mais moi, je lis ça dans mon équipe, quoi qu'il arrive.
Tu sais comment je reconnais ? Je reconnais à la voix de Buzz l'éclair.
Voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici.
Effectivement, on a retrouvé Buddy et Buzz, les personnages principaux de Toy Story. Alors, pourquoi il est dans ce quiz ?
En quoi ? Ah, c'est un premier long métrage en images de synthèse, non ?
Exactement, c'est le premier long métrage d'animation entièrement réalisé en images de synthèse, qu'on appelle aussi l'animation 3D. Jusqu'à présent, on fonctionnait surtout en dessin avec des cellulos, et là, tout d'un coup, en fait, c'est l'ordinateur qui devient l'outil principal qu'on connaît très bien. Je vous invite à découvrir le court métrage Luxor Junior, le premier film des studios Pixar qui date de 86. Évidemment, il y a eu des expérimentations avant, notamment avec le film Tron en 82. Où se mêle prise de vue réelle et images assistées par ordinateur.
Merci Sandra pour cette deuxième partie de quiz très très riche en première fois. Margot, tu vas rendre hommage à Angelo Badalamenti.
Oui, absolument. En fait, j'ai pas la bonne feuille. La voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle beaucoup de première fois. Et moi, la première fois que j'ai entendu quelques notes composées par le grand Angelo Badalamenti, c'était ça. Alors, j'ai pas prévu de quiz, mais peut-être que vous avez reconnu la BO de Twin Peaks, Fire Walks With Me, un film et une série, enfin une série et un film, aussi mythique que mystérieux et hypnotique, réalisé par David Lynch au début des années 1990. Ça ne nous rajeunit pas. Nul doute que la musique originale, qui a été imaginée par Angelo Badalamenti et interprétée par Jolly Cruz, n'était pas étrangère à cette atmosphère envoûtante. Eh bien, le maestro américain s'est éteint le 11 décembre dernier. Si Hitchcock avait son Bernard Herrmann et Sergio Leone son Ennio Morricone, il est bien difficile de séparer l'esthétique de David Lynch des sonorités d'Angelo Badalamenti, tant leur collaboration a été féconde. Citons notamment Blue Velvet, Sailor et Lula, Twin Peaks, Lost Highway, Une histoire vraie, Mulholland Drive, donc c'est toute une cinématographie qui s'est écrite peut-être à quatre mains. Le cinéaste évoquait en ces termes leur fonctionnement. Je m'assois avec Angelo, je lui parle d'une scène et il commence à jouer ses mots au piano. Et le compositeur de renchérir, David s'asseyait à côté de moi au clavier et me décrivait ce qu'il pensait pendant que j'improvisais la partition. La quasi-totalité de Twin Peaks a été écrite sans que je voie une seule image, du moins dans le pilote. Alors, au-delà de cette collaboration fidèle, Angelo Badalamenti a composé bien d'autres bandes originales de films pour des cinéastes comme Paul Schrader, Jane Campion, Danny Boyle, Nicole Garcia ou Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, peut-être qu'on le sait moins. Et je vous propose pour conclure d'écouter un court extrait de la bande originale du film La Cité des Enfants Perdus, de Caro et Jeunet justement. La chanson « Who Will Take My Dreams Away » Bon, j'ai pas l'accent de Sandra. Composé par Angelo Badalamenti et interprété par Marianne Faithfull. I can give you all my dreams. All the light. We got to give. Who will take your dreams away?
saw another day.
Merci Margot pour cette évocation du compositeur Angelo Badalamenti.
C'est moi qui fourche maintenant.
Suite et fin du quiz des premières fois, Sandra, c'est à toi.
Et on sort de la torpeur en votant de cette musique. Alors, quel est le premier acteur ou la première actrice à avoir obtenu un Oscar aux États-Unis ?
Oh là là !
Aucune idée.
Loin.
C'est loin, en effet.
Ça doit être un monsieur, non ?
Ouais.
C'est sûr.
Alors, le premier à obtenir un Oscar du meilleur acteur, c'est Sidney Poitier ? Ça vous parle peut-être ?
Oui, bien sûr.
Avec le film Le Lys des Champs en 1964, film de Ralph Nelson. Mais la première actrice à obtenir un Oscar, c'est celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Et c'est Hattie McDaniel qui jouait Mamie dans Autant en emporte le vent. Et qui avait été exceptionnellement autorisée à rentrer dans l'hôtel ambassadeur de Los Angeles pour assister à la cérémonie et recevoir son prix. Parce que l'hôtel était évidemment sous ségrégation aux États-Unis, interdit aux Noirs. À quel film appartient ce dialogue ?
Elle dit que c'est son piano, elle ne veut pas qu'il y touche. C'est un russe, il ne sait pas lire et il est ignorant.
Nous sommes une famille maintenant, nous faisons tous des sacrifices et vous en ferez. Vous lui enseignerez le piano et j'y veillerai.
C'est la leçon de piano, The Chain.
Voilà, absolument. Alors pourquoi
Si, c'est la première femme à recevoir la Palme d'Or au Festival de Cannes.
Ah oui.
Absolument, et c'est aussi une des rares femmes à avoir obtenu un Oscar. De la meilleure réalisation. C'est la troisième après Catherine Bigelow pour Des Mineurs et Chloé Zhao pour Nomadland. Elle a eu l'Oscar pour The Power of the Dog, donc le dernier, en 2021. Et du côté de la France, la première à avoir reçu le César de la meilleure réalisation.
Oh bah si, Tony Marshall.
Et oui, pour Vénus Beauté Institute en 2000. Alors pour clore ce quiz, pour conclure, vu qu'on parle des femmes dans le cinéma sur cette dernière question, je voudrais attirer votre attention sur un cycle qui est proposé par Arte TV ces temps-ci, autour de Aïda Lupino, qui est une grande cinéaste d'origine anglaise. Alors d'abord actrice, puis réalisatrice, puis productrice. Non, productrice avant d'être réalisatrice même, je pense. Et alors, Margot, je crois que tu as une petite anecdote sur Aïda Lupino qui est assez sympa.
Tout à fait. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu en arrière. Je fais attention à la montre, promis, je vais faire vite. Oui, elle a été d'abord comédienne, très jeune, et ensuite, elle a fondé avec son mari une société de production qui avait le nom quand même plutôt beau de Filmmakers, donc les fabricants de films, les artisans de films. Et ensuite, effectivement, un peu au pied levé, elle s'est lancée dans la réalisation, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et elle a adhéré au puissant syndicat de la Directors Guild of America, qui était le syndicat des réalisateurs et réalisatrices de films, du coup. Et ce syndicat avait la particularité de commencer, du coup, ses assemblées générales par Gentleman and Miss Lupino. Parce que pendant très longtemps, elle a été la seule réalisatrice membre de ce syndicat. Merci beaucoup, Sandra.
Alors, juste, en fait, Arte diffuse actuellement et jusqu'au 7 juillet un documentaire et trois films autour de cette réalisatrice. Donc, un documentaire qui s'appelle Aïda Lupino, une cinéaste, et quatre films de cette réalisatrice que je vous invite vraiment à découvrir.
Bah oui, d'autant que c'est pas si fréquent que ça de voir des films aussi anciens qui sont marquants par leur qualité, et donc c'est plutôt chouette de pouvoir voir ça sur Arte.
On parle des années 50, là.
Absolument. Je pense qu'on va pouvoir lancer le générique, parce que finalement, nous ne sommes pas si en retard que ça, c'est formidable. Donc ça ne sera pas encore la première fois de l'année où nous allons terminer en retard. Voilà, on fait une petite entorse à notre règle aujourd'hui. Parce que justement, il est temps de baisser le rideau et d'éteindre la lumière dans ce studio, parce que l'émission est terminée pour aujourd'hui.
Oh.
Merci Sandra, merci Cécile, merci Lisa derrière ta console. Et puis merci à vous derrière votre transistor, dans votre voiture peut-être, pour votre écoute. Attends, on ne sait pas qui nous écoute, si ça se trouve il y a encore des personnes avec des transistors. Si vous avez manqué une information, si vous souhaitez rejouer au quiz de Sandra,
oh oui.
Peut-être imiter les sept nains chez vous aussi, comme nous l'avons fait en studio, ou vous repaître des bandes originales composées par Angelo Badalamenti, tout est disponible en podcast sur la page de l'émission en vous rendant sur le site de Radio G.
On se retrouve en direct mercredi dans 15 jours avec une émission spéciale consacrée au festival Premier Plan. C'est pour bientôt, c'est fin janvier. Bonne soirée tout le monde, bon film, bon cinéma, bonne année.
Bonne soirée.
Radio G. 101.5 FM. Radio-G.fr.
Spannst den Bogen.